Bonsoir. Le gouvernement enterre Europa City, la méga zone de commerce et de loisirs prévue dans le Val d'Oise. L'Élysée promet un projet alternatif. Mission confiée à Francis Roll-Tanguy qui est l'invité de ce journal. La justice classe sans suite 54 enquêtes pour des violences policières supposées contre les gilets jaunes. D'autres dossiers pourraient déboucher sur un procès. On fera le point avec Stéphane Peyre. L'OTAN est en état de mort cérébrale. La petite phrase d'Emmanuel Macron sur l'Alliance Atlantique suscite la polémique. Dans ce journal, l'analyse de Nathalie Hernandez et le commentaire de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Emmanuel Macron a donc tranché. Le projet Europa City est abandonné. Cette gigantesque zone commerciale prévue dans le Val d'Oise du côté de Gonesse était vivement contestée par la mouvance écologiste, mais aussi par les agriculteurs et les petits commerçants. Les élus locaux, au contraire, défendaient un investissement susceptible de créer environ 10 000 emplois. Mais pour le chef de l'État, Europa City est un projet daté et dépassé qui ne correspondrait plus aux aspirations de nos concitoyens. Anne-Laure Barral.
Europa City était comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes devenu le symbole d'une bétonisation à outrance de nos sols. Situé dans le triangle de Gonesse, à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris, il prévoyait d'artificialiser 80 hectares des dernières terres agricoles d'Île-de-France. Une aberration pour ses détracteurs alors qu'il y a une forte demande de circuits courts dans notre alimentation. Ses promoteurs, eux, vantaient leur destination loisirs et shopping plus qu'un simple centre commercial. Ils comptaient investir 3 milliards d'euros pour attirer 30 millions de visiteurs par an. Leur projet avait déjà été remodelé en éliminant notamment la piste de ski artificielle qui passait mal sur le plan de la sobriété énergétique. Le gouvernement sait qu'il va s'attirer les foudres des élus du Val d'Oise en abandonnant ce projet. Il souhaite donc entamer des discussions sur les alternatives possibles. Si Mathieu Orphelin, le député proche de Nicolas Hulot, est satisfait de cet abandon, il reste cependant vigilant sur ces alternatives qui ne doivent pas consommer de terres agricoles selon lui.
Anne-Laure Barral, merci. Et effectivement, le maire socialiste de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, ne décolère pas ce soir. Il accuse le gouvernement de sacrifier son territoire au nom d'une vision uniquement symbolique de l'écologie. Quant à Kamel Slimani, du collectif des Vrais Gens, il fustige, lui, le mépris du gouvernement pour la banlieue. Fin de citation. On va maintenant s'intéresser à ce fameux projet alternatif annoncé par Emmanuel Macron pour remplacer Europa City. Pour y réfléchir, le chef de l'État a mission Francis Roll-Tanguy, l'ancien directeur de l'atelier parisien d'urbanisme. Francis Roll-Tanguy qui est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Première question, Francis Roll-Tanguy. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron qualifie Europa City de projet daté et dépassé ?
Ah, écoutez, je pense que la décision qui vient d'être prise, elle est d'abord prise au nom du fait que ce projet représentait un symbole d'un système dont tout le monde voit qu'on est au bout. Et même si on ne sait pas quel est le système futur, il faut se donner les moyens de l'inventer.
Pourquoi projet qui est au bout, selon vous ?
Bon, écoutez, je pense dans les chroniques, on parle tous de ce problème qu'ont tous les grands de la grande distribution, de mode de consommation à faire évoluer. Et donc, peut-être que la grande surface lieu où on va se promener le week-end est peut-être un concept, justement, qui fait partie de ce système un peu dépassé.
C'était pourtant un projet porteur d'emplois, 10 000 environ, défendu par les collectivités locales. Les élus et de nombreux habitants dénoncent ce soir un abandon de la banlieue.
Bah, justement, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que le gouvernement a choisi de faire une mission au-delà de la décision sèche. Mais en même temps, je pense que ça reflète qu'on ne peut pas tout justifier au nom de l'emploi. Il faut regarder vers l'avenir, c'est vraiment important, parce qu'il faut que les emplois de demain soient vraiment les emplois de demain. Ils n'ont pas des emplois d'hier.
Et quels sont les emplois de demain, justement ?
Bah, écoutez, je veux dire, il y a quand même beaucoup de réflexions. Je veux dire, on parlait justement des circuits courts de distribution. Je veux dire, tout ce qui peut se faire autour d'éléments nouveaux comme il en sort aujourd'hui avec les révolutions techniques qui sont en cours. Je crois qu'il faut regarder devant et regarder quelle peut être la part qu'on peut au travers de cette vaste zone inventée pour demain, tout en étant très soucieux, effectivement, des problèmes sociaux qui se posent, et notamment dans ce secteur de l'Est du Val d'Oise.
Francis Roll-Tanguy, quelles seront finalement les bases sur lesquelles vous allez élaborer ce projet alternatif ?
J'attends ma lettre de mission, donc je ne vais pas décliner dans l'ensemble cela ce soir, parce que je crois qu'il est important c'est de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des interlocuteurs, les élus au premier chef, depuis les élus municipaux, départementaux, régionaux, les élus nationaux aussi, députés et sénateurs du secteur. Et puis, il y a quand même autour de ce projet beaucoup d'événements associatifs, pour ou contre. Il faut donc d'abord et avant tout écouter tout le monde et reprendre aussi un peu un vrai diagnostic de là où on en est sur ces sujets économiques et sociaux.
Est-ce que l'on peut dire que votre projet aura une dominante industrielle, commerciale, artisanale, agricole ?
Je ne me permettrai vraiment pas de le dire ce soir. Et encore une fois, je pense que il faut essayer de prendre toutes les dimensions en regardant vers l'avenir, mais c'est pour ça aussi qu'il y a les sujets de mobilité qui sont posés au travers du fonctionnement de toute cette zone.
Le collectif pour le triangle de Gonesse, opposant historique à Europa City, propose la création d'une ceinture alimentaire sur le site, projet agricole pour approvisionner l'Île-de-France en circuit court. Quel est votre avis sur ce projet ?
Moi, je ne me permettrai pas ce soir d'émettre des avis sur les projets ou les contre-projets. Il y a une décision à propos d'Europa City. Cette décision ne conduit pas à abandonner toute urbanisation sur le triangle de Gonesse. C'est du moins ce que j'ai compris de la position gouvernementale. Moi, je vais, un, attendre ma lettre de mission et, deux, tenter d'instaurer un dialogue avec toutes les parties prenantes avant de commencer à avancer quelques conclusions que ce soit.
Mais la piste agricole, la piste maraîchère, vous semble une piste intéressante pour ce projet alternatif ?
Je pense qu'il n'y aura pas, à l'inverse, je me permettrai de dire qu'il n'y aura pas de projet alternatif sans une part de cette piste.
Qu'est-ce qui coince finalement dans ce projet ? Comment faire finalement pour renouer les fils du dialogue, puisque vous avez des élus qui défendaient ce projet et le président qui donc décide de l'abandonner, ce projet ?
Écoutez, moi je ne postule pas avant d'avoir commencé ma mission. Je peux juste vous dire que l'année dernière, j'ai fait une mission après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes auprès des élus bretons et de la région Pays de Loire qui tous défendaient le projet. C'est donc que ça doit être possible de renouer un dialogue.
Et de quelle façon vous allez vous inspirer finalement de ce qui a été fait ou de ce qui va être fait à Notre-Dame-des-Landes ?
C'est plutôt pour moi, non pas de s'inspirer de ça, mais de s'inspirer effectivement des vertus du dialogue et de recréer le fil du dialogue pour concevoir ce projet qui veut se tourner vers l'avenir et qui s'adresse à l'ensemble de cette zone et pas simplement au strict triangle de Gonesse.
Francis Rol-Tanguy, il y a aussi la question de la gare du métro du Grand Paris, la gare triangle de Gonesse. Est-ce que cette gare sera construite malgré tout, selon vous ?
Écoutez, je pense encore une fois que je ne vais pas vous donner l'héritage de ma mission, mais enfin pour moi, les déclarations du gouvernement sont claires là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas de remise en cause de ce qu'on appelle la ligne 17 du Grand Paris Express.
Francis Rol-Tanguy, merci d'avoir été l'invité de France Culture. Je précise que le fruit de votre mission sur le projet alternatif à Europa City, cette réflexion devrait être connue au printemps après les élections municipales. Dans 10 jours, le 17 novembre prochain, le mouvement des Gilets jaunes fêtera son premier anniversaire. Une mobilisation inédite qui continue, même si les cortèges sont nettement moins fournis qu'il y a un an. Ce mouvement a été marqué par des violences qui ont parfois entraîné une répression brutale de la part des forces de l'ordre. Et justement, le parquet de Paris dresse un premier bilan des enquêtes menées dans la capitale par l'inspection générale de la police nationale. Au total, sur les 212 enquêtes de l'IGPN recensées à ce jour, 146 ont été clôturés avec un classement sans suite dans un tiers des cas, Stéphane Père.
54 procédures ont fait l'objet d'un classement sans suite. Si ces dossiers ont été classés, précise le parquet de Paris, c'est que les infractions étaient insuffisamment caractérisées aux yeux de la police des polices, que les auteurs n'ont pas pu être clairement identifiés ou que les infractions, l'usage disproportionné de la force, étaient carrément absents aux yeux des enquêteurs de l'IGPN. En revanche, 18 procédures ont fait l'objet d'ouverture d'une information judiciaire avec la nomination donc d'un juge indépendant pour instruire le dossier. Il s'agit des dossiers les plus graves, les blessures ayant entraîné des mutilations, des handicaps, le plus souvent après l'usage d'armes de défense par les policiers. C'est le cas par exemple de l'affaire du gilet jaune Jérôme Rodriguez, blessé le 26 janvier à l'œil par un tir présumé de LBD ou une grenade, ou encore les violences de la part de CRS dans un Burger King près des Champs-Élysées en décembre. Enfin, une première, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, 2 policiers sont directement convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, l'un ce mois-ci, l'autre en décembre. L'un des policiers avait giflé un manifestant, boulevard du Montparnasse, l'autre, un CRS, avait lancé un pavé, boulevard de l'Hôpital, en direction des manifestants lors de la manifestation du 1er mai.
Stéphane Père, merci. Les forces de l'ordre ont évacué ce matin plusieurs campements de migrants installés dans le nord-est de Paris ainsi qu'en Seine-Saint-Denis. Au total, ce sont plus de 1600 personnes qui ont été mises à l'abri selon la terminologie officielle. Ces migrants ont été installés dans une quinzaine de gymnases et des centres d'accueil situés dans toute l'Île-de-France. D'autres évacuations sont prévues dans les prochains jours, notamment du côté de la porte d'Aubervilliers. Ces mises à l'abri avaient été annoncées il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Voilà les mots d'Emmanuel Macron pour évoquer la situation de l'Alliance Atlantique, supposée garantir la sécurité des Européens grâce au parapluie américain. Le président français s'exprimait dans les colonnes de The Economist, l'hebdomadaire britannique, qui a réalisé l'interview le 21 octobre dernier. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron sort un mois avant le prochain sommet de l'OTAN à Londres. Nathalie Hernandez.
Les mots sont tranchants. Emmanuel Macron pose sans détour la question de la survie de l'Alliance Atlantique, en particulier face à la position des États-Unis. Donald Trump est un président qui ne partage pas l'idée du projet européen et sa politique se désaligne de ce projet, assène le chef de l'État français, rappelant le départ de Syrie des troupes américaines et en parallèle l'offensive de la Turquie dans le nord-est du pays. Le président français enfonce même le clou, estimant qu'il n'y a eu aucune planification ni coordination de l'OTAN face à cette opération militaire d'Ankara. Il est vrai que depuis 2 ans, Donald Trump ne cesse de mettre en garde les autres pays de l'OTAN. Leur effort financier est insuffisant et l'Amérique est toujours le plus gros contributeur. En mai 2017, le président américain a même menacé de ne plus se plier à l'article 5 de l'Alliance, article qui engage toutes les nations à venir en aide à l'un des membres qui serait attaqué. Emmanuel Macron doute d'ailleurs aujourd'hui de son efficacité. Car que faire, demande-t-il, si la Turquie est à son tour prise pour cible? Pour le président français, cela réveille une prise de conscience, feront bouger les lignes. Pour cela, il faut retrouver une souveraineté militaire européenne et rouvrir un dialogue stratégique avec la Russie. Ne pas le faire, conclut Emmanuel Macron, serait une faute énorme.
Nathalie Hernandez, merci. Je vous propose maintenant d'écouter le sentiment d'Hubert Védrine sur la supposée mort cérébrale de l'OTAN. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin partage globalement l'analyse d'Emmanuel Macron.
Ça fait très longtemps qu'il y a un doute sur la vraie garantie de l'OTAN. Ça remonte au moins aux années 60 avec la riposte graduée des Américains, qui était une façon de ne pas être engagé tout de suite. Après, il y a eu toutes les grandes négociations américano-soviétiques qui ont été faites par-dessus notre tête. Les Américains ont utilisé l'OTAN dans tous les sens en faisant du eurozone, on comprend plus très bien quel est le lien avec l'Atlantique Nord, donc il y a une espèce de doute depuis des années. Alors Trump, avec la méthode brutale qu'on lui connaît, il a dit qu'il ne se sent pas absolument obligé de garantir la sécurité des membres. Alors, c'est la base même de l'Alliance, c'est l'article 5. Mais c'est une situation qui est maintenant connue depuis quelques années. Même Mme Merkel, qui s'effarouche un peu, avait dit comme on ne peut plus compter vraiment sur eux, il faut s'organiser mieux entre nous, et finalement il ne se passe rien. Et donc les Européens, au lieu de s'organiser, on a un pôle européen dans l'Alliance, ils mettent des cierges quoi pour que les Américains les protègent quand même. Donc je comprends que Emmanuel Macron pense qu'il n'a plus aucun intérêt de rester dans le non-dit, les euphémismes, la langue de bois et les mensonges. Et donc il espère, à mon avis, provoquer une réaction positive.
Hubert Védrine qui répondait à Stéphane Robert. Cette vision radicale de l'OTAN exprimée par Emmanuel Macron, Angela Merkel ne la partage pas. Pour la chancelière allemande, l'Alliance Atlantique reste la pierre angulaire de notre sécurité. Même tonalité chez le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui considère que l'OTAN demeure un partenariat stratégique essentiel. Mais Mike Pompeo s'empresse de rappeler la position américaine sur le sujet. Les États-Unis exigent un meilleur partage du fardeau financier de l'OTAN. Retour en France avec le temps demain, agité et pluvieux sur un grand quart sud-ouest des Pyrénées à la Loire. Ailleurs, le ciel sera variable et même chargé sur les frontières de l'Est. Il neigera en montagne. Les températures minimales sont en baisse entre 0 et 11 degrés et même des gelées jusqu'à moins 2 degrés dans le sud-est. Les maximales seront comprises entre 9 et 18 degrés du nord à la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.